Jean-Jacques sur les ondes de Boulevard 102.1, ton émission d'actualité. On analyse également les grands enjeux politiques, les grands enjeux de société. On l'a fait tout à l'heure avec justement la DPJ qui envoie des jeunes à la rue avec leur sac de vidange. Ça se retrouve en itinérance. Il y en a qui passent à l'irréparable suicide. C'est un texte de Mylène Moisan dans Le Soleil. Ça vous a fait réagir énormément au 418-971-1021. 9 degrés pluie pour aujourd'hui. 7 degrés possibilité d'averse pour demain à 30%. 14 degrés de la pluie pour jeudi. Nuageux 13 degrés pour vendredi. Bref, c'est une semaine grise de printemps. La neige va fondre. C'est la bonne nouvelle. Pascal, dans l'actualité, évidemment, on revient sur cette baisse des taxes d'essence annoncées par le gouvernement fédéral. Bonne nouvelle pour les contribuables et automobilistes.
Ben, t'en parles à météo. Bonne nouvelle. Maintenant, on va en parler sur les autoroutes, la circulation et surtout votre portefeuille. Bonne nouvelle aussi. On essaie d'alléger un peu le fardeau là, financier que ça a, cette guerre au Moyen-Orient, sur votre consommation d'essence avec, entre autres, une... Bon, suspension, parce qu'on ne retire pas à 100%, c'est temporaire comme mesure, ouais, de cette taxe sur l'essence. C'est 10 sous le litre d'essence régulier. On était à 4 sous de réduction sur le litre d'essence pour le diesel. Ça va de soi pour vous, ça va de soi pour tout ce qui est transporté en matière de nourriture, de commercialisation, que ce soit pour n'importe quel transport. Vous allez voir peut-être un petit oomph au niveau de votre portefeuille. On va le comparer. Toi, tu disais 134 $ environ par semaine avec ta minivan. On va voir ça dans les prochains jours, mais c'est une suspension de taxe d'assise sur l'essence en vigueur à partir du 20 avril jusqu'au 7 septembre. Fait qu'on a quand même quelques mois assurés, là. Et Ottawa estime à 2,4 milliards $ le coût de cette mesure-là sur le portefeuille canadien. Ça aussi, malheureusement, ben, faut le nommer. Hein? C'était habituellement
clairement.
Du côté du Moyen-Orient, justement, on va parler un petit peu plus du blocus de Donald Trump d'hier. On le qualifie de dangereux et d'irresponsable de la part de la Chine. Alors, on a haussé le ton vis-à-vis des États-Unis. On voit des alliés qui commencent à se regrouper un peu. Est-ce que c'est une bonne chose? Ben, plusieurs disent que non. L'économie mondiale est déjà durement touchée. Si la Chine a vraiment été portée de l'armement du côté de l'Iran, ça a renforcé leur puissance qui était finalement celle... En négatif. Là. L'Iran avait de la misère à subvenir à tous leurs besoins militaires. C'est ce qui donnait un grand bout de chemin aux États-Unis pour continuer leur pression. Et du côté de l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Si la Chine s'en mêle et est allée porter de l'équipement militaire, là, on se retrouve avec un petit gros problème pour la suite des choses. Mais ce serait irresponsable et dangereux, c'est ce que qualifie la Chine face aux emprises des États-Unis en ce moment. Il y a Christine Fréchette qui a fait parler aussi aujourd'hui parce qu'on attend son conseil des ministres. Elle sera aussi assermentée demain, 16h. Les députés de la CAQ vont participer à un caucus en soirée. Et ce qu'on a su, c'est que il y a des rumeurs comme quoi il y a des gens non élus qui pourraient faire partie du Conseil des ministres, comme Guy Cormier, ex-patron du mouvement Desjardins, au centre de rumeurs depuis des mois. Là, on est vraiment là-dedans par rapport à Christine Fréchette et son Conseil des ministres. Ici, à Québec, je termine avec ça parce que je sais que c'est pour notre prochain invité. Les associations étudiantes et syndicats de l'Université Laval font front commun contre la rectrice Sophie Damour. On dit que c'est pas transparent. On veut une tenue d'État généraux sur l'avenir de l'Université Laval, entre autres pour les grands projets immobiliers, puis surtout parce qu'on a de récentes décisions qu'on a jugées douteuses selon la direction et ce qu'a rapporté Radio-Canada.
Et pour en parler avec nous, on a Maxime Coulombe, président du syndicat des professeurs de l'Université Laval. Monsieur Coulombe, merci beaucoup pour votre disponibilité pour l'émission On en jase ce midi.
Bonjour, M. Fortin.
Monsieur Coulombe, on parle d'opacité de l'administration de Sophie Damour. Il me semble que ce n'est pas la première fois que j'en entends parler. Ça fait plusieurs années que ça dure. Hein?
Oui, ça fait longtemps que ça dure, malheureusement. On est confronté à une administration qui se considère trop souvent comme le patron d'une grande entreprise que la directrice ou la rectrice, plus exactement, de l'Université Laval. Ça entraîne toutes sortes de conséquences inquiétantes là, pour une organisation comme l'université qui a un mandat d'intérêt public.
Oui, là, dans les si on prend juste cette année, cette fameuse nouvelle politique de stationnement, aïe, il y a des étudiants qui ont eu des constats d'infraction pas à peu près.
Oui, puis en même temps, il y a des étudiants qui ont compris que comme c'était un système de vérification qui était surtout pensé pour des voitures stationnées en parallèle, quand on cachait un peu sa plaque d'immatriculation contre un mur ou contre une autre voiture, soudainement, on était moins contrôlé. Fait que, il y a eu plusieurs problèmes liés au stationnement. Puis, ben, les stationnements, les cafétérias étudiantes aussi, où les étudiants ont perdu la responsabilité de la gestion de certaines cafétérias, des projets de construction sur les fermes, la ferme Campus, là, qui est une ferme d'apprentissage puis de recherche. Bref, il y a beaucoup de dossiers qui nous inquiètent beaucoup, puis c'est pour ça qu'on voulait s'asseoir avec l'administration puis enfin comprendre.
Oui, parce que si je fais juste prendre l'abolition des cafétérias étudiantes, ça, dans le fond, c'est des revenus que les diverses associations étudiantes allaient chercher pour par la suite réinvestir, justement, là, dans leurs activités.
Exact. Au lieu d'avoir une compagnie privée qui vise des profits, on avait une organisation étudiante qui baissait ses prix pour permettre à ses membres de ne pas payer trop cher. Autrement dit, les étudiants payaient moins cher. Et puis d'autre part, quand il y avait des profits qui étaient produits, ben ça retournait évidemment aux associations étudiantes. Fait que c'était gagnant-gagnant en fait pour les assos. Puis là, ben ils sont évidemment extrêmement frustrés, vexés, aussi parce que le système est opaque. On ne sait pas exactement comment la décision a été prise ou sur quelle base ou pourquoi on n'a pas justement privilégié les étudiants, surtout quand on peut démontrer qu'ils sont tout à fait capables de gérer des cafétérias. Là.
On entend qu'ils voudraient avoir un peu plus d'implication là-dedans. On entend qu'ils se sont vus retirer des avantages qu'ils avaient auparavant. Mais il y a vraiment la transparence là, qui est mise en lumière là-dedans, l'opacité, le manque de transparence de la rectrice. Ça s'avère, c'est un gros problème. Mais surtout, pourquoi on manquerait de transparence en ce moment?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a des projets immobiliers colossaux qui sont prévus par l'université. Vous le savez, l'université, là, c'est près de 2 milliards par année de budget et en recherche et en financement. C'est comme une ville dans une ville. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là. C'est très gros. Et puis, ben, pour diversifier ses sources de revenus, l'université a en tête de construire des logements. Puis on peut reconnaître la raison pour laquelle elle veut faire ça, c'est évident. Lorsque le gouvernement donne moins, ben, ça permet de te garantir un certain mode de fonctionnement, un certain budget de fonctionnement. On peut comprendre pourquoi on fait ça. Il y a même des endroits ailleurs sur la planète, au Canada même, comme en Colombie-Britannique, où il y a des universités qui l'ont fait. Ça a très bien fonctionné. Mais plus près de nous, on peut penser à l'UQAM avec l'îlot voyageur. On sait la catastrophe que ça a été comme projet immobilier. Il y a des centaines de millions qui ont été engloutis dans ça. Et puis, ben nous, on a le droit d'être inquiets parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est pensé. On ne sait pas comment ça va être fait. Et nous, ce qu'on dit à l'administration, c'est pour ça qu'on appelait des États généraux, c'est, écoutez, on va faire venir des experts. On en a des experts aussi ici. On va s'asseoir. Vous allez nous expliquer vos processus de décision, puis on va faire comme on devrait faire à l'université. Écrime, on vise l'excellence partout à l'Université Laval. Est-ce qu'on peut pas viser aussi l'excellence dans la gestion? On va s'assurer que les choses sont bien faites, puis on va faire partie de la réponse. Autrement dit, on va faire partie de la réflexion.
Et là, ce que je comprends, c'est que vous avez une fin de non-recevoir de la part de la rectrice Mme Damour.
Bien, tout à fait. Écoutez, nous, ce qu'on demandait au départ, c'était des états généraux. Là, on a eu plusieurs rencontres de discussion. L'université n'en voulait pas. Elle voulait pas qu'il y ait de recommandations à l'issue de ça. Mais tu sais, je veux dire, on va pas s'asseoir pour juste parler. Là, s'il n'y a pas de recommandations au bout de ça, ça marche pas.
On va faire une rencontre. Je vais vous expliquer ce que je veux faire. Taisez-vous. Je suis la dictatrice de l'université.
C'est quoi l'avantage de faire ça? C'est-tu parce qu'on pourrait cacher des choses?
Ouais. Ben écoutez, moi je veux juste comprendre là, je veux pas, tu sais sérieusement, il y a plusieurs hypothèses possibles, je sais pas exactement, mais là le point de départ, là, le degré zéro de l'histoire, c'est est-ce qu'on peut pas savoir comment les choses fonctionnent? Est-ce qu'on peut pas avoir des états généraux où on va faire venir du monde, on va s'entendre, on va avoir des recommandations? Puis ben, quand on a proposé ça à l'administration, ils étaient évidemment pas chauds à l'idée. Et puis ce qu'ils ont fini par faire, c'est de précipiter une sorte de forum qui va avoir lieu demain, là, à midi, une séance de 2 heures d'information. Mais entre le projet que nous on avait de compréhension des processus, de participation aux décisions, d'expertise, puis ça, je veux dire, on ne joue pas dans la même ligue, là. C'est pas la même catégorie du tout. Alors, ça va pas. Là. La proposition aussi, une des raisons pour lesquelles nous, on voulait faire ça à l'automne, c'était ça l'affaire, on voulait faire ça à l'automne parce que là, c'est la fin de session. Je ne sais pas si vous rappelez sans doute de vos années d'étudiants, là, mais quand on est rendu en avril, les étudiants sont occupés à leur fin de session, les profs préparent leurs examens, rattrapent les séances. C'est pas le moment d'organiser un événement aussi important que celui-là. Là. Donnons-nous du temps pour bien le faire. Fait qu'on avait dit, faisons ça à l'automne. C'est parfait, ça.
Monsieur Coulombe, on se fait une promesse. Tenez-nous au courant du résultat, justement, de vos différentes sorties médiatiques et voir si la pression que vous mettez à l'heure actuelle sur la rectrice Sophie Damour va porter fruit, parce que je suis entièrement d'accord avec vous. C'est beau d'avoir des projets immobiliers, c'est beau de diversifier nos sources de revenus, puis on souhaite que nos universités le fassent pour être encore moins dépendants du gouvernement, mais il faut bien faire les choses.
Je ne saurais dire mieux. C'est au courant, promis.
Oui, on s'y est au courant, M. Coulombe. Merci beaucoup. Passez une belle fin de journée. Merci. C'est ça, Pascal. C'est qu'on... Moi, je suis pour le projet, mais je suis entièrement d'accord avec M. Coulombe qui dit « Hey, one minute, là. C'est parti tout croche. T'as un projet qui part tout croche. Il finit tout croche, puis il finit par te coûter de l'argent au lieu de t'en rapporter. »
Oh, on a vu ça au gouvernement, j'ai l'impression. Moi,
pas mal, hein?
Mais il y a aussi le fait que, tu sais, l'université, c'est une mini-société qui nous apprend tellement à chapeauter des projets, à gérer des enveloppes budgétaires, si t'es dans des comités, des choses comme ça. Les associations étudiantes acquièrent énormément de compétences qui vont leur servir. Pourquoi est-ce que, si l'université, c'est une mission d'éducation et sociale, on ne mise pas encore plus là-dessus?
Je te rejoins tellement
sur
ce point-là.
C'est intelligent.
Ben, ce qui réclame, c'est un processus éducatif qui devrait avoir lieu dans une université près de chez vous. Elle tombe bien, celle-là, près de chez nous, c'est l'Université Laval.
On n'est pas dans une entreprise privée où vient du patronat. Là.
C'est ça.
On est là pour l'éducation.
Puis c'est
des
le patron qui met ses propres billes dedans. Là.
On peut surveiller.
Oui, mais... exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Courte pause à Boulevard 101. On termine cette séance. Part après la pause.